Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Moi ça va bien, salut Mehdi le Kanafi, bonjour à tous, comment ça va?
Ça va, bien. très bien, très content d'être avec toi, d'être avec vous pour un nouveau Red Alert. Et voilà, on s'est dit, est-ce qu'on a quelque chose à raconter au début?
Eh ben, un nouvel Red Alert, toujours un moment de bonheur.
Ça fait toujours plaisir, je pense qu'il vous intéresse. C'est le programme du jour. Et au programme de cette semaine, des consoles portable. On va se demander quel est l'avenir de ce marché qui semblait en perdition, mais qui est vraisemblablement en pleine ébullition. Nico, tu vas nous dresser un petit état des lieux de ces machines mobiles. Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons de Sea of Stars, un JRPG à l'ancienne, un RPG fait récemment par des Québécois, donc radicalement l'inverse d'un JRPG à l'ancienne. Sea of Stars, c'est le second jeu du studio Sabotage, après le merveilleux The Messenger, et nous verrons donc s'ils ont fait au moins aussi bien. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique Retour sur, bah une semaine, une journée complètement folle hier. Alors voilà, nous on enregistre exceptionnellement cette semaine mercredi. Hier, mardi, on était un petit comité avec toute la rédaction.
Oh, petit séminaire. De rentrée, voilà.
On était à Walibi, non c'est pas vrai. On était à Walligator, parce que ça a changé. C'est pas vrai, non plus. Mais pendant cette journée où nous étions entièrement consacrés à l'avenir de Sœur, eh ben en parallèle, on a connu l'avenir de Microsoft.
Exactement.
Alors ils n'ont pas subi des fuites, ils ont connu des fuites qu'ils ont eux-mêmes peut-être engendrées. Donc on a voilà.
On appelle ça le oups, la boulette. Ouais, alors évidemment la question s'est posée de le traiter parce que Red Alert c'est quand même de l'actu, hein, et ça aurait été très intéressant. Mais là, honnêtement, niveau timing, c'était un peu chaud. Surtout que chaque heure qui passait apportait son lot d'informations. Voilà, on a notamment cru que la fuite venait de la FTC, donc dans le cadre de l'enquête sur le rachat de Activision Blizzard. Finalement, c'est une erreur qui vient de Microsoft. Donc, ça valait pas le coup de rusher un truc là, et s'il faut de louper des infos ou de dire des choses qui sont pas réelles. Mm. Surtout qu'on apprend qu'apparemment, c'est des infos qui datent un petit peu aussi. Alors, évidemment, on se doute que il y a beaucoup de ce qui est dit qui est encore dans les plans, mais il y a quand même des variations. Enfin, voilà, grosso modo, ont été dévoilés les plans de conquête de Microsoft jusqu'à 2030, à peu près.
C'est énorme.
Donc, voilà, révision de machine actuelle inclus, et même philosophie de la prochaine machine, date de sortie envisagée.
Perspective sur le Game Pass.
C'est un truc de ouf.
Toute la philosophie, en fait, de l'entreprise.
Voilà, donc je pense que chez Microsoft, ça a dû pleurer dans un coussin, et chez Sony, ça a dû ouvrir une petite bouteille de champagne.
C'est clair.
Et donc c'est vrai que ça leur cause du tort, parce qu'on voit aussi les offres commerciales, a priori, qu'ils envisagent pour différents partenaires, donc on peut imaginer que ça peut créer des petites tensions.
Ça, c'est hyper intéressant de connaître et de comprendre, en fait, combien peut coûter une exclusivité Game Pass en Day One, combien, Microsoft peut mettre sur la table, ou combien un studio peut demander pour une exclusivité Game Pass, une disponibilité Game Pass.
Ouais, donc on se rappelle qu'à l'époque déjà la série S avait été dévoilée par une fuite avant l'annonce officielle. Donc bon voilà, Microsoft c'est une immense société, donc t'as énormément de gens qui bossent là-bas, donc plus t'as potentiellement de personnes, mais plus le risque de fuite est présent. Hein. Donc voilà, une sale journée pour eux.
beaucoup d'actu pour nous.
Beaucoup d'actu, et je pense que c'est quelque chose qui un événement assez exceptionnel dans le cadre du jeu vidéo. Quoi.
On va pas se comparer à Microsoft, mais on est en mode TPE, très petite entreprise, mais à notre échelle, à notre mesure, on a des plans, des perspectives qui vont de 3, 4, 5 à 10 ans. Et nous, ce qu'on a imaginé presque quand on a lancé Sœur il y a bientôt 9 ans, ça s'est concrétisé petit à petit. Les plans qu'on a imaginés sont arrivés petit pas par petit pas. Donc ce que Microsoft a annoncé pour 2030, la macro-stratégie, ça risque d'être la même. Enfin, c'est vraiment les plans conséquents sur la direction que Microsoft... Après, le micro-management ou les plans à court et moyen terme, ça peut changer.
Oui, le fait que ça ait dévoilé une nouvelle manette, ça, je pense, c'est pas ce qui les chagrine le plus.
Mais philosophie Game Pass, les 110 millions, tout ça, c'est des grosses perspectives avec des stratégies faites. On est sur des dizaines d'années, là.
Ouais, en même temps, il y a rien. Enfin, on n'est pas tombé notre chaise. Hein. C'est exactement la poursuite de la politique qu'ils ont initiée, de plus en plus vers le cloud, orientée vers le Game Pass. Donc là-dessus, il y a pas tellement
surprise.
Parler d'une nouvelle console en 2028, ça crée des cycles de développement de machines comme on a connu par le passé sur les deux dernières gènes. Donc voilà, on n'avait pas non plus des trucs... ça va, c'est plus une confirmation en fait.
C'est passionnant de mettre le nez dans ce genre de documents qui nous sont complètement inaccessibles, mais il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise sur la stratégie de Microsoft. En revanche, voilà, sur les sommes et les échanges qu'il peut y avoir entre les studios et le constructeur sur notamment le Game Pass, ça c'est passionnant, et c'est vraiment des chiffres qui sont là à tomber à la renverse.
Ah ça, c'est clair.
Bon, ben voilà, peut-être qu'on fera une chronique ou pas. C'est vrai que c'est très très fluctuant, ça ouais. bouge, on sait pas.
Tu en verras, peut-être que la semaine prochaine, ça aura plus tellement d'intérêt d'en parler, voilà. Que les infos tournent de toute manière assez fortement, quoi.
Voilà, donc voilà, rencardez-vous sur peut-être plus précisément, oui, tout le monde en parle, hein, mais sur ces chiffres qui sont assez passionnants. En tout cas, dans les raids d'alerte et dans les prochains raids d'alerte, vous entendrez parler de cette histoire justement avec ces chiffres, parce que ça fera écho à tout. Quand on va parler des lancements Game Pass, tout ça, on va vous dire, ben par exemple, Microsoft estimait que Electronic Arts allait demander 300 millions pour avoir une disponibilité Game Pass pour Star Wars Jedi Game Pass Day One pour Survivor 2. 300 millions, donc on est plus sur plus que le budget du jeu.
Ça couvre budget plus marketing, possible. Peu de choses près.
Donc ça c'est intéressant, et c'est des chiffres qu'on va évoquer dans les prochains raids d'alerte, ouais. Donc bah, vous serez au courant.
Et ça montre a priori que si t'es dans un deal Day One Game Pass, bah, c'est plutôt un bon plan pour l'éditeur en fait. Hein.
Et plus t'es gros, plus t'es bien. Ouais. Bah, ça c'est triste, mais c'est souvent le cas. Nico, c'est à toi. Première chronique, tu vas nous parler un petit peu, ben voilà, des consoles portables, c'est actuel, je savais pas.
Ouais, en fait, on avait commencé à aborder le sujet dans le Red Alert 103, souviens-toi. Mm-hmm. Donc, c'était consacré, ben, aux rumeurs qu'on avait eues sur le projet PlayStation Portable, hein, qui est depuis, c'est avéré correct, oui. Hein, donc, avec le projet PlayStation Portal, cette fois. Et en fait, on vit actuellement un espèce de nouvel essor des consoles qui permettent la mobilité.
Ouais.
Je dis exprès pas console portable, parce qu'on va voir qu'il y a eu quand même du changement. Donc à ce moment-là, on se disait que la fin justement de ces consoles portables au sens traditionnel du terme, c'était faite avec la génération Vita 3DS. Mm-hmm. Et donc c'était voilà, ce quand je parle de sens traditionnel du terme, c'est vraiment un système fermé au contenu dédié, donc et avec des machines jouables uniquement en mobilité. Donc la faute entre guillemets à cette déchéance des machines portables, c'était évidemment l'essor du jeu mobile, hein, avec ces jeux gratuits ou très peu chers, et surtout bah, le fait que tout le monde possède un téléphone et où t'as pas à investir pour mm-hmm. un matos dédié, bah ça a fait que ça a vraiment ringardisé le jeu sur portable. Et puis la Switch est arrivée et a semble-t-il marqué une espèce de voilà le dernier clou sur le cercueil, mm-hmm. avec son modèle hybride. Finalement bah t'as plus besoin de portable, hein, parce que t'as cette approche console de salon et mm-hmm. console transportable.
Et c'est l'abandon de la branche mobile de Nintendo qui avait ces deux un petit peu philosophie là, ouais. Ils ont dit
et justement avec des jeux qui seront bah, du coup un seul type de jeu mmh. qui tournera sur cette machine, et donc ne plus avoir des devs d'un côté sur les jeux portables et de l'autre sur les consoles.
On a rêvé de ça.
On a rêvé, c'est vrai. Donc on voit que vraiment la clé de ce qui semble vraiment capter l'intérêt des gens, c'est pouvoir démarrer ton jeu sur ton canapé puis de le poursuivre en déplacement, mmh. ou vice versa. Donc c'est l'idée d'avoir vraiment son seul et même jeu, et que tu vas pouvoir bah, consommer à la fois chez toi et à la fois à l'extérieur, quoi. Et depuis, en fait, voilà, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant de demandes pour du Nomad grâce au succès de la Switch. Donc, on a cette espèce de nouvel Eldorado avec, on l'a dit, le PlayStation Portal qui va arriver. On a l'iPhone au global et notamment l'iPhone 15 Max, on va en parler tout à l'heure, hein, qui semble aller sur ce créneau. On a eu la Steam Deck. Je sais pas, tu dis le ou la Steam Deck, toi?
Moi, je dis la Steam. Ouais. Moi, je dis la Game Boy, moi.
Moi aussi. La Steam Deck, allez. Donc, la Switch 2, on a la Logitech G Cloud, la ROG Ally d'Asus, sans compter les dizaines d'autres modèles, hein, qu'on trouve sur le marché, voilà, de sorte de PC miniaturisé en portable.
Il y a du monde.
Et on va voir qu'à travers, en fait, cette offre pléthorique se cachent finalement, bah, des approches et des usages qui sont assez différents, hein. Donc, d'une manière générale, on peut découper l'offre en espèce de trois philosophies, hein, mm-hmm. trois usages différents. Donc on a d'abord l'écran déporté. Donc là, on parle bien ici d'un accessoire, hein, qui vient en complément d'un système existant. Bah, l'exemple, c'est évidemment la PlayStation Portal, qui nécessite d'avoir une PS5 pour avoir un intérêt quelconque, hein. Et à ce moment-là, donc tu vas utiliser ce qu'on appelle le Remote Play pour streamer le contenu de ta PS5 jusqu'à ton écran. Okay. Donc et ta Portal, c'est vraiment un écran déporté, quoi. Il y a pas la technologie interne pour faire tourner le jeu, quoi.
Tu pars pas en balade avec.
Tu peux, mais ça ne marchera pas. Voilà. Sauf si tu veux le montrer à tes potes. Donc la Steam Deck, bah, elle aussi, elle peut servir de rôle d'écran déporté, hein, en streamant le contenu de ton PC vers ta machine. C'est une fonction qui est permise et qui rencontre plutôt du succès, quoi. Deuxième philosophie, c'est vraiment la console autonome, donc à savoir un hardware dédié qui a des capacités technologiques capables de faire tourner les jeux ben, nativement en fait. Donc là, on trouve encore une fois la Switch et encore une fois la Steam Deck, hein, qui voilà, tu utilises ton compte Steam et tu mm-hmm. télécharges tes jeux et elle fera tourner les jeux de ton compte avec sa technologie dédiée. Et la troisième approche, c'est vraiment la plateforme de cloud de service en fait, quoi. Donc c'est une machine ici qui ne sert qu'à streamer du contenu, encore une fois, mais qui toute seule ne sert à rien, parce que comme la Logitech G Cloud, ça va nécessiter un abonnement à des services tiers cette fois, comme le Game Pass ou GeForce Now de Nvidia, bah, pour pouvoir te servir de ton contenu, quoi. Donc là, ça nécessite évidemment d'avoir du Wi-Fi ou de la techno 4G ou voire 5G pour fonctionner, quoi.
T'as le service cloud seul, Stadia avait raison du coup.
Stadia avait raison.
Ils avaient vu juste, mais pas au bon moment.
Bah c'est souvent le cas, les pionniers n'en sont jamais trop récompensés quoi. Donc ce qui nous fait nous dire en fait que c'est bien les usages qui ont évolué avec le temps. Hein.
Ouais.
Donc en fait on cherche sur une machine mobile aujourd'hui à pouvoir jouer au même jeu que ce qu'on possède sur son système de prédilection, donc son gros PC ou sa console. Mm-hmm. Et du coup, bah, fini les épisodes de jeux portables un peu, tu vois, des jeux dédiés, des franchises à succès mm-hmm. qu'on a pu en connaître. On a aussi des machines qui deviennent finalement un élément d'appoint quelque part, un environnement déjà existant. Donc, c'est-à-dire que t'auras ton gros PC ou ta grosse console. Et en plus de ça, tu vas t'acheter ton truc qui va venir faire ce truc d'appoint, voilà, pour ton canapé, pour ton lit, pour ta chambre. Hein. C'est vraiment un truc en plus, en général, quoi. Et aussi, paradoxalement, ces machines, elles jouent souvent sur une certaine sédentarité. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément d'avoir ta console pour l'amener en vacances, mais c'est plus pour y jouer dans un certain confort, mais toujours chez toi. Et là, bon, avec la Switch, évidemment, tu peux partir, prendre le train, l'avion et en vacances. Mais quand t'as une Steam Deck ou une Roguelite qui sont très puissantes et donc qui ont une autonomie assez réduite, bah là, l'idée, c'est de rester chez soi pour pouvoir la rebrancher dès que t'as plus de batterie. Et la porter à l'extérieur, vraiment, ça, c'est assez limité. Hein. Quand t'as qu'une heure de batterie pour faire un gros
une
trip
là-bas,
c'est un petit peu compliqué, quoi.
Enfin, tu veux dire que la Wii U avait raison?
Ils auraient serait pas d'accord là-dessus. En tout cas, ce qui est fort, c'est que la Switch, avec son concept hybride, finalement, ben, réunit, elle joue sur tous les tableaux à la fois et elle peut contenter tous ses usages à la fois, ce qui peut évidemment expliquer son succès tonitruant, quoi.
Carrément.
Et justement, la Switch, parlons-en parce qu'on a eu d'autres éléments depuis le Red Alert 103 qui sont venus apporter des infos sur ce que pourrait être la techno de cette Switch 2.
Okay.
Alors là, c'est des rumeurs évidemment, mais c'est rapporté par des journalistes de manière complètement véritable. Pour eux, c'est avéré. Donc la Switch 2 aurait été présentée à des développeurs lors de la Gamescom. Donc les infos qui en ressortent, c'est qu'on reste bien sur un modèle hybride, pas de surprise là-dessus. Mm-hmm. La puce serait toujours développée par Nvidia, donc le partenaire de Nintendo depuis la Switch. Je parle comme un belge, la Switch. Alors je rentre pas dans les détails techniques parce que j'y connais rien et que ça va être un peu chiant, mais grosso modo, c'est que ça permettrait quand même d'avoir une machine bien plus puissante que la Switch, donc qui permettrait notamment du ray tracing et l'utilisation du fameux DLSS de Nvidia. En gros, c'est une technique d'upscale, on va dire, qui utilise l'intelligence artificielle pour un affichage 4K sur ta télé. Donc l'histoire de la rétrocompatibilité, c'est encore un point un petit peu flou, mais là je pense que s'ils font pas, ils vont ça va être une catastrophe, hein, c'est que tu vas décevoir 130 millions de consommateurs.
Ouais, et tu vas t'asseoir sur un parc de
Ouais, sans compter que voilà, le côté crossplay aussi va être réduit à néant, donc je pense qu'ils y viendront, même si évidemment, il peut y avoir des blocages technologiques, hein, c'est pas ça se fait pas tout seul, hein, donc on va voir ce que ça donne. En ce qui concerne la date de sortie, alors là, il y a plusieurs versions qui s'affrontent un petit peu. En général, ça parlait plutôt de la rentrée 2024, donc plutôt genre septembre-octobre de l'année prochaine.
Okay.
Après, ça fait deux Nintendo Direct qu'on a suivi où on voit que c'est clairement une production de jeux un petit peu de transition. Donc
ouais.
Tu vois qu'ils temporisent un petit peu. Et le fait, je trouve, qu'ils aient présenté la console si tôt quelque part à la Gamescom et qu'ils savaient qu'il y aurait des fuites. Hein. Quand tu montres ta console à un événement comme ça, tu sais que ça va fuiter. Est-ce que finalement, on serait pas sur peut-être un objectif plutôt premier semestre,
fin de bilan fiscal, mars, comme la Switch première du nom.
C'est vrai que là, les jeux qu'on a vus dans Nintendo Direct, ça couvre grosso modo jusqu'à mars-avril.
Ouais, il y a Luigi.
Par Luigi Mansion qui en était.
Bizarre, lui.
Mais bon, est-ce que, surtout que voilà, fin d'année prochaine, on sait que théoriquement, c'est la sortie de GTA 6 aussi qui est envisagée. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de
Même
sortir?
Même Nintendo s'écarte.
Ouais. Et c'est vrai que sortir en début d'année, ça a plutôt bien réussi à la Switch.
Carrément.
Voilà, donc pourquoi pas réitérer l'année prochaine, peut-être plutôt avril-mai.
Donc du coup, début de bilan prochain.
Ouais.
Ok.
Après, ça, c'est juste des réflexions.
C'est toujours pareil, c'est est-ce qu'ils veulent gonfler le bilan actuel parce qu'ils ne seraient pas arrivés aux objectifs escomptés, ou est-ce que, comme les objectifs de l'année en cours ont été atteints, ils vont bien commencer le prochain pour que ça parte.
Ouais, puis ils ont l'air de vouloir continuer à faire vivre la Switch derrière, avec encore des jeux développés. Mm-hmm. On peut imaginer peut-être même qu'elle baisse de prix, tu vois, comme un peu l'a fait la PS2 en fin de vie où elle était passée à 100 bouliches et c'est ce qui a permis de vendre encore
énormément
après coup.
Elle va avoir une super seconde vie, la Switch première du nom. Hein.
Donc en tout cas, si on devait résumer les infos qu'on a entendues, hein, c'est que ça serait une Switch, en gros, Switch 2 plus puissante et qui pourrait de fait accueillir les gros jeux des éditeurs tiers. Donc on rappelle par exemple que Microsoft s'est engagé à porter Call of Duty sur la console s'il pouvait racheter Activision. Je pense qu'il devait peut-être se dire que c'était jouable, hein. Sinon il se serait peut-être pas engagé là-dedans, quoi.
Ou alors ils vont le regretter.
Ça va être dégueulasse. Donc Nintendo, alors, jouerait la carte de la sécurité, oui et non, mais voilà, qu'on sait à quel point le passage entre la Wii et la Wii U s'est mal passé. là vu que c'est de la Switch, on comprendrait qu'ils conservent le même la même typologie de machine quoi.
Ouais, ouais.
Parce que voilà, il faut parfois jouer un peu safe.
Ah non, moi je suis.
On est habitué à ce qu'ils apportent des innovations pour chaque machine. Toi, ça te rassure plutôt, je pense.
Ouais, ça me rassure, mais même pour le nom hein, que t'as pas évoqué, c'est moi je suis. Enfin, je pense qu'elle va s'appeler Switch 2 et pour prendre un peu cette philosophie, que ça soit ou PlayStation ou même Apple, ceux qui réussissent vraiment fort, même si Nintendo réussit fort, c'est pas ce que je dis, mais jouer la confusion, le Wii, Wii U, la Switch ou Switch 2, ça m'étonnerait pas qu'ils soient dans cette sécurité et ça va dans le sens de ta question. Moi, oui, ça me rassure aussi qu'ils aillent dans cette philosophie-là.
Oui, Switch 2, c'est vrai que c'est pas le nom le plus sexy, mais ça fonctionne, quoi. Il y a des exemples qui le montrent, voilà.
Mais pour le coup, vraiment, Wii U, ça fait partie de l'échec et de la catastrophe, c'est l'incompréhension du concept parce que incompréhension du nom, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont jouer encore cette carte-là? Pas sûr, mais peut-être, hein, ils vont s'amuser à faire la Super Switch, je sais pas.
Donc, deuxième chose, donc, deuxième salve d'informations qui ont changé depuis le dernier raid d'alerte, c'est la présentation annuelle d'Apple, donc, qui a eu lieu en septembre, comme d'hab. Et on sait que malgré, sa relative discrétion dans le domaine, Apple, c'est bien un acteur majeur du jeu vidéo, et ça, depuis un moment. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont un store, donc, une boutique en ligne, et qui va permettre de téléchargement de jeux divers et variés, sur laquelle ils récupèrent 30% de commission sur tous les achats effectués.
Okay.
Et donc là aussi ils ont un système d'Apple Arcade hein, qui est un espèce de Game Pass pour machine iOS, et ce qui fait que Apple tire énormément de revenus du jeu vidéo, même si c'est pas un constructeur dédié ou qui sort pas des jeux dédiés, c'est un acteur du marché incontestable quoi. Et donc dans sa présentation annuelle hein, la marque elle s'est pas cachée de vouloir davantage capitaliser sur le jeu vidéo. Et vraiment, ils ont cette philosophie à pas de loup, quoi. C'est vraiment, on y va petit à petit. T'auras jamais Tim Cook qui va arriver en mode, les jeux vidéo, maintenant, on y va. Tu vois, un peu à la Google, en disant, c'est nous le futur. Je pense qu'ils sont un peu plus malins et un peu plus discrétos là-dessus, quoi. Donc, on a eu quand même l'annonce de gros jeux étaient capables maintenant de tourner en natif sur les iPhone 15. Alors,
impressionnant.
La gamme max, hein, donc, ceux qui sont plus puissants et plus chers. Donc on a vu passer The Division, Resurgence, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village ou RE4 Remake et même Death Stranding. Donc là, enfin, à voir concrètement comment ça donnera, mais c'est un niveau équivalent à celle qu'on trouve sur les consoles plutôt de génération précédente.
Ouais, PS4. Ouais.
Voilà, sur les jeux un peu crossplay entre deux générations, cross-gen, pardon. Donc ça a vraiment de la gueule, quoi. Donc c'est permis par la fameuse nouvelle puce A17 Pro. Donc je répète ce que j'ai entendu là-dessus. Hein.
Tu es Pépé Garcia.
Donc voilà. Plus de cheveux. Mais... Donc moult ray tracing et tout. Donc ça a l'air quand même niveau techno d'être quelque chose d'assez conséquent, quoi. Et on a quand même eu cette petite citation. Hein, l'iPhone est la meilleure plateforme de jeux mobiles au monde. Voilà. Donc ça flexe un petit peu. J'ai dit
ça flexe. Discretos,
mais ça flexe un petit
peu. Ouais. La plus rentable, je suis d'accord. Moi, parce que là, tu l'as parlé avec le store Apple. Tu l'as bien précisé. 30% sur absolument tous les achats. C'est une grande surface. Quel que soit ce que tu prends sur le store, ils en prennent quelque chose. Et au niveau du camembert du marché, ils se placent.
C'est un peu comme la TVA dans la vie, en fait.
Mais c'est vrai comme Carrefour. Hein. C'est que tout ce que tu achètes chez Carrefour, ils prennent une part. Mais sur ce camembert, la répartition des gains de ce gâteau du marché mobile. Ils sont carrément en place, quoi. Y a pas...
Alors, les iPhone, iPad et tout, c'est évidemment des machines de jeu depuis un bail, hein, je l'ai dit, mais est-ce qu'on peut l'imaginer comme vraiment quelque chose qui peut venir concurrencer les plateformes dont on parlait tout à l'heure? Il y a quand même quelques questions qui se posent, je trouve. Hein. C'est déjà, est-ce qu'un jour, ils vont sortir une manette propriétaire? Tu vois, on voit ces trucs qui se clipsent des deux côtés de l'écran pour servir de manette.
Les Kishi
notamment, par exemple, voilà. Alors, imagine, si Apple le fait, on peut s'attendre à ce que ça coûte bonbon,
cher,
parce que c'est un peu leur marque de fabrique.
Il sera stylé.
Parce qu'en l'état, on voit ces jeux-là, enfin, on s'imagine pas, je pense, jouer à RE4 Village au tactile, hein, sur son téléphone.
Non.
Je pense que c'est l'enfer sur Terre.
Un runner. Runner et RE4 Remake où tu fais que coûter un.
Alors, faut jouer à deux personnes, chacun à côté de l'écran, quoi. Donc, évidemment, c'est quand même compatible avec des manettes existantes ou justement des adaptateurs existants, hein. Y a pas de souci là-dessus.
Tu peux appairer toutes les manettes, enfin.
Mais le fait qu'Apple, je trouve, développerait sa propre techno là-dessus rendrait encore plus concret le côté, maintenant, on est vraiment une machine de jeu sérieuse là-dessus, quoi. Deuxième question, c'est le côté crossplay. Parce que quid du crossplay, hein, parce que on sait que Apple c'est aussi le Mac, c'est aussi les Apple TV. Mais est-ce que t'achètes ton jeu sur téléphone pour le faire intégralement sur ton téléphone? C'est pas forcément peut-être ce qui est très sexy et ça va à l'encontre par exemple de ce que la Switch propose, de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein.
Oui.
Alors il y a plusieurs cas de figure ici, c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils sont en train de tester des choses. RE Village par exemple aujourd'hui est déjà dispo sur Mac. Okay. Mais si tu achetais la version Max, ça ne te confère pas la possibilité d'avoir le jeu gratos sur iPhone. Il faudra le racheter sur iPhone.
Pas cool, c'est pas cool. Non.
Par contre, RE4 Remake, donc, est toujours pas encore sorti, mais si tu l'achètes, ton achat vaudra à la fois pour Mac, pour iPhone et pour iPad. Donc là, t'as vraiment ce côté crossplay qui est plutôt cool. Ensuite, la question du prix. Ce qu'on sait, je l'ai dit, l'Apple Store, c'est ce qui a un peu démocratisé les jeux pas chers, voire gratos. Là, est-ce que tu t'imagines payer, je sais pas, même 40 boules pour un triple A? Est-ce que ça va pas à l'encontre de la philosophie globale? Ouais. Par exemple, R-Village, j'en parlais, il est dispo sur Mac, il coûte 30 boules.
Ok.
Donc là-dessus, mais voilà, tu dois le racheter sur iPhone si tu veux y jouer. Par contre, RE4 Remake va tester un modèle économique un petit peu différent, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le lancer gratuitement, et qu'à partir d'un certain point, tu vas pouvoir payer pour débloquer le reste du contenu.
Free to start.
Free to start, exactement. C'était la philosophie qu'avait choisi Nintendo pour son Mario Run. Ça n'a pas été un succès tonitruant, a priori.
Pas tonitruant, mais je pense sur l'échelle de leurs espoirs. C'est que c'était pas ouf, mais ils ont fait, ça a fait de la thune quand même. Ouais. Je crois, non, j'allais dire le Fire Emblem, non, lui, t'es free to play pour de vrai.
Donc on voit que voilà, il y a quand même des questions qui se posent, il y a des approches qui sont tentées. Faudra voir ce que ça donne, mais c'est vrai que si tu dois acheter ton jeu sur iPhone en plus de ta version Mac, c'est des prix qui coûtent 40 balles ou quoi, je pense que là, ça va être un frein, forcément. Ouais. Donc, ils sont plus en train d'un peu de tester différentes méthodes, quoi. Donc, à ce jour, surtout Apple, hein, je l'ai dit, ne développe pas de hardware 100% dédié aux jeux vidéo, et n'a pas non plus de titres first party, hein, qui proposent là-dessus, quoi.
C'est vrai.
Donc, après, qui sait ce que l'avenir nous réserve, parce que, finalement, Apple, est-ce qu'il serait pas à un gros rachat prêt de devenir un acteur majeur du jeu vidéo? Alors, je parle pas forcément d'un constructeur, mais peut-être d'un éditeur. Si demain, il rachète, je dis n'importe quoi, Ubisoft, ça peut devenir ton activité jeu vidéo qui va être beaucoup plus sérieuse.
Carrément.
Comme PlayStation l'est devenu avec Sony au fil du temps, quoi. Donc, en fait, ça fait de nombreuses années que le jeu vidéo, il poursuit son émancipation de l'écran de télé, hein, donc de l'écran de la console du salon, enfin de la télé du salon, à travers la réalité virtuelle, à travers le jeu mobile, à travers le jeu de tablette. Et on voit que t'as cette volonté maintenant de play anywhere, donc de pouvoir jouer n'importe où, qui est ancrée dans nos habitudes, hein, de consommateurs aujourd'hui. Mais tu veux pas jouer à des sous-versions, tu veux jouer à tes gros jeux, en fait. Les jeux que tu testeras sur ta console ou ton gros PC une fois chez toi, quoi. Donc tu veux pas vraiment une version au rabais ou une alternative. Donc c'est quand même cette envie de mobilité, ça crée un secteur vraiment en croissance. Il y a une demande du public qui est très forte. Et depuis l'avènement de la Switch, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment considéré par beaucoup. Et surtout, je l'ai dit, t'as une diversité de l'offre aujourd'hui qui est plutôt cool parce que on a chacun des envies, des besoins différents, donc tu pourras t'adapter à ce que tu veux. Par exemple, toi, tu disais le PlayStation Portal, c'est plutôt quelque chose qui te paraît convenir à des besoins que tu as, quoi.
Ça peut être sympa, de délester justement la partie jeu vidéo de l'écran principal du salon pour que quelqu'un d'autre puisse profiter de la télé pendant que toi tu joues et pas forcément dire je vais jouer à la Switch. Non, mais là, tu peux jouer à un jeu PS5, ça peut être sympa aussi.
En tout cas, c'est amusant de constater que les consoles portables 100% dédiées ont aujourd'hui disparu, et finalement qu'il n'y a peut-être jamais eu autant d'envie de jeux vidéo en mobilité, donc
c'est clair.
Petit paradoxe rigolo. Et c'est vrai que les diverses avancées technologiques permettent aujourd'hui d'avoir des hardware tout petits qui proposent des performances capables de faire tourner les gros jeux d'aujourd'hui, donc là-dessus c'est quand même aussi une des grosses différences qu'on avait par rapport à avant. Après, là, je suis sûr que ça va te parler, mais je pense qu'on peut être juste un petit peu triste, c'est qu'on peut craindre la fin d'une voie alternative où on avait ces jeux un peu différents qui étaient développés pour des portables, tu vois, comme X Awakening, GTA, Chinatown Wars. Et là, je pense qu'on c'est un peu la fin de cette époque-là, quoi.
C'est vrai. Mais au contraire, tous ces jeux comme Advance Wars ou Fire Emblem, plus Advance Wars, ça a été des remakes, mais ces jeux qui étaient uniquement dédiés aux machines mobiles de Nintendo, on s'est toujours dit « Ah, mais c'est bon, les équipes, elles vont se concentrer, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur une seule machine et on aura des gros Fire Emblem ». C'est arrivé, donc on l'a peut-être oublié, mais fut un temps, on était dégoûté que peut-être ces séries qu'on aimait tant n'étaient cantonnées qu'aux machines mobiles.
Ouais. Après ça, Nintendo, je trouve, continue à développer cette philosophie de jeu portable, entre guillemets, on va dire. Tu vois, t'avais eu le remake de Link's Awakening qui gardait cette patte. On a, tu vois, du Mario 2D en alternance avec du gros Mario 3D. On a encore, je trouve, un peu cette espèce de variation.
Ouais, c'est
Par
vrai.
Par contre, c'est que, voilà, on avait l'habitude avant que chaque grosse licence, t'avais la déclinaison portable et tout. Ouais.
Spin-off.
Assassin's Creed, on avait, je crois, le Prince of Persia DS, toi, qui t'avais plu à l'époque.
L'Assassin's Creed 2 DS, c'était un Sony. Sonic like. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. C'est, tu as Ezio et tu cours très vite. Donc, t'avais, c'est un, c'est déclinaison mobile. Ouais.
Et donc là, voilà, ces variations-là sur console, je pense qu'on en aura plus des masses, quoi.
C'est sûr. Et pour faire le point avec le début de l'émission, le retour sur les fuites concernant Microsoft Xbox, dans le document, on a appris que, justement, toute la partie mobile, elle allait être développée, mais en externe.
Ils allaient, c'est qu'ils ne comptent pas prendre ça en charge eux, mais voilà, ça sera des partenaires ou.
Ils y pensent, mais avec le soutien de sociétés.
C'est déjà le cas, on le voit avec Ken, hein, tu peux jouer sur ton téléphone à tes jeux Xbox en cloud avec un adaptateur manette, sans problème. Quoi.
Mais ça, c'est voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ces grandes directions à plus ou moins 5 ou 10 ans, là, ils se disent pourquoi pas ce marché, mais pas de plein fer, on va y aller avec du matos maison, quoi.
Ouais.
On va plutôt y aller. Bon, mais comme quoi, marché mobile en pleine ébullition, avec beaucoup de marchés, enfin beaucoup de devices, beaucoup d'argent.
Est-ce que tu es mobilité, toi? Est-ce que tu joues en dehors de chez toi, de ton canapé?
Pas du tout, et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que même à l'époque Game Boy, première Game Boy, GBA et tout, j'étais le genre de mec à jouer chez moi, dans ma chambre, à côté de la console.
Ouais, bah écoute, un peu pareil que toi. J'aime bien avoir la possibilité de le faire théorique, mais j'avoue, je reste un peu comme toi, attaché au côté... chez soi, canapé, et enfin moi je trouve qu'on est jamais mieux à jouer sur son canapé avec sa grande télé, le son qui va bien,
mais même après je sais que c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est la possibilité de partir que ça soit en week-end ou en vacances avec le gros jeu que t'es en train de faire pendant la semaine, et pas forcément le substituer à quelque chose qui est un autre petit jeu mobile. Non, si tu continues ta partie de façon
côté, je perds pas de temps, je continue à avancer le jeu que j'ai envie de faire. Après moi je fais partie des mecs qui amènent leur Switch en déplacement et qui la laissent
comme tout le monde
dans la sacoche, quoi.
Il y a un truc aussi qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est tout ce qui est jeunesse. La Switch, ça a été un succès. Les machines mobiles ont toujours été un succès parce que c'était des consoles qui ont trouvé un public chez les plus jeunes, chez les très jeunes même. Alors évidemment avec Pokémon, mais avec un nombre de franchises incalculables qui fonctionnent chez les plus petits. Tout ce qui est Apple, iPhone et tout, t'oublies. C'est-à-dire que c'est quand même des machines qui sont à des milliers d'euros, enfin 1200 balles pour le...
Ouais, toute cette nouvelle vague dont on vient de parler, c'est pas du tout fait pour les jeunes, quoi. Non. PlayStation Portal, tu vas voir s'il est un gamin. L'iPhone 15 Max, parce que j'ai pas parlé des prix, mais l'iPhone 15 Max, c'est entre 1000 et 1200 balles d'entrée de gamme. Donc deux fois le prix d'une PS5 ou d'une Xbox Series X. Et puis même ta Steam Deck et tout, c'est immense et tout.
Et puis la Steam Deck, c'est... alors nous, on est consoleux, hein, vous le savez, mais faut un minimum un petit peu bricoler, bidouiller, installer ton jeu. C'est du certain play. Je sais pas si c'est si facile ça. Ouais. Après, toujours pareil, on parle des plus petits. Si t'as 7, 8 ans, c'est pour ça que la Switch, quand elle va baisser de prix, que la Switch 2 va sortir, il y aura vraiment, encore une fois, une nouvelle vague, un nouveau public. Et la Switch 2, faut voir leur placement de prix. Nintendo n'a jamais été... gourmand là-dessus, ils vont pas les jouer dans ce terrain-là, faire un truc à 400-500 balles.
Ouais, mais on est quand même dans un monde inflation, prix des ressources qui augmentent, tous les prix qui augmentent. Si elle était à 400 balles au lieu du 300 balles de la Switch 1, ça me choquerait pas. Enfin, ça ferait chier évidemment, mais ça me choquerait pas vu la conjoncture actuelle.
Après Nintendo, c'est un Pokémon qui sort à chaque Noël, c'est pas GTA 6 qu'ils attendent, donc ça serait étonnant. S'ils partent dans cette direction-là, ça sera étonnant. En tout cas, on en saura plus peut-être premier trimestre de l'année prochaine. En tout cas, merci Nico pour ta chronique sur les machines mobiles et le marché des portables. On va passer à l'interlude top 3, celui que vous attendez tant. Un top 3 cette semaine qui est consacré aux jeux Dreamcast, mais qui n'ont pas été portés sur une autre console. Un top qui nous a été conseillé fortement et inspiré par Ken de l'équipe. Alors clairement, on est sur un des tops les plus durs depuis le début. Franchement, alors,
on l'anticipait pas aussi compliqué.
Il est super chaud. Je répète, c'est les jeux Dreamcast. C'est pas un top 3 des jeux Dreamcast. Shenmue, Code Veronica, tout ça, on n'a pas le droit. Ouais. C'est les jeux Dreamcast qui n'ont pas été portés sur une autre console. C'est vraiment très chaud. Il y a quelque chose comme 20 jeux finalement.
Sachant qu'on s'est même interdit Soul Calibur, par exemple, qui a été sorti sur version démat sur Xbox 360.
C'est intransigeant. 18 Wheelers, non, monsieur. C'est sorti sur GameCube.
Évidemment.
C'est très 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 compliqué. Donc voilà. Nico, quel est ton top 3?
C'est peut-être même pas interdit qu'on se soit planté et que des jeux qu'on va citer sont sortis ailleurs finalement.
Pourtant, lui, on l'a bossé, tu vois.
Oui.
Avec l'aide de Ken.
Alors, le top 3, moi, c'est Sega Gaga. Alors, étonnamment, c'est parce que c'est un jeu que j'ai pas joué. Mm-hmm. Il est même pas sorti chez nous, mais c'est un jeu qui est tellement...
Hipster, déjà. Petit top de hipster.
C'est un jeu qui est tellement, je trouve, fascinant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de RPG et qui vous met en scène, en fait, dans un Sega à la débâcle, en fait, à la dérive, et qui doit affronter un concurrent qui ressemble étrangement concurrent quand même à PlayStation, on va dire. Et voilà, tu dois lutter pour faire regagner des parts de marché et rendre Sega dominante dans le secteur du jeu vidéo. Alors le jeu est sorti évidemment en pleine fin de la Dreamcast, donc avait ce côté méta complètement halluciné. Et voilà, en tant que RPG, tu te battais, quand t'avais des combats, tu te battais contre le bug de ton jeu, contre le développeur feignant. Enfin, c'est un pur jeu complètement ouf. Et qui est unique, voilà. Et je pense que
hélas jamais traduit.
Ouais, et donc associé à l'image de la Dreamcast forever. Quoi.
Comme l'incarnation jouable de l'échec de la console, c'est triste.
Quel courage, je sais pas si c'est courage, mais
moi j'ai toujours voulu y jouer. Il doit exister des ROM avec la traduction, évidemment.
Mais c'est fou, il est nul en plus, hein. Mais
carrément. En tout cas, ça m'arrange que ton top 3 n'ait un jeu que tu n'as pas fait, parce que c'est le cas aussi dans mon top 3. C'est Blue Stinger, qui est alors un titre plutôt connu, donc une exclue là, tu vois, massive, hein, qui est restée sur la Dreamcast. Et c'est un jeu qui était censé être, alors je l'ai jamais fait, mais moi je me suis toujours moqué de ce jeu, Blue Stinger, qui était un survival horror très coloré, très solaire, avec du coup du bleu, bien bleu fluo là. Et je trouvais ça pas très impressionnant. En tout cas, techniquement, il était plutôt beau, mais je trouvais pas ça très inquiétant, en tout cas, sur Blue Stinger. Toi, je sais que tu le défendais à l'époque.
Mais ouais, alors j'ai jamais joué non plus, hein, bizarrement, mais je trouve qu'il m'a toujours fait un peu rêver.
Techniquement,
le héros avait une texture de jean. Pour moi, c'était réalité. Oui. C'était le plus beau jean du jeu vidéo, quoi. Et je trouve qu'il était trop beau. Après, c'est quand même un jeu où tu mettais des pains, tes ennemis, quand ils explosaient, ils disparaissaient en des pièces comme dans Mario.
C'était particulier. Tu parles de jean. C'est vrai que le héros, c'était vraiment Joe Random, quoi. Il avait un jean, quoi.
Jean-Michel Random, ouais.
Alors, je triche, hein, j'ai regardé juste avant l'émission. C'est un jeu qui a été co-développé par Climax. Et Climax a co-développé avec Camelot, Shining Force et Landsoccer. Donc,
famille. Hein.
Franchement, c'est la famille.
Tu as arrêté de baver sur.
Ah ouais. Quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais dégoûté. J'ai pas respecté Blue Stinger, et donc pourquoi pas un jour un rétro Blue Stinger. On va se marrer, je pense. Est-ce qu'on aura peur,
mais je serai chaud.
Allez, go pour ton top 2.
Top 2, Virtua Fighter 3, peut-être l'un des jeux les plus connus, en tout cas, qui était au launch de la machine. Alors évidemment, nouvelle itération de la saga de jeux de baston initiée par Yu Suzuki et la M2. Là aussi, un jeu magnifique à sa sortie. Le boss Dural en effet métal réfléchissant, qui était
très fan des effets, toi.
Oui, métal fin pour m'impressionner, moi. Et on sait, Virtua Fighter, c'est certainement la franchise de jeux de combat 3D la plus technique, la plus riche en termes de coups, de variations. Et quand même, commencer ta carrière avec ce jeu-là, c'était pas dégueulasse, quoi.
Ouais, franchement, un launch très très sérieux. Bon, ça lui a pas réussi, mais Virtua Fighter 3, puis Virtua Fighter dans son ensemble, c'est quand même une des plus grandes sagas du Versus.
Même s'il a un peu laissé à l'abandon, ils ont retenté de ressortir la version 5 en e-sport optimisée.
J'ai pas mis Virtua Fighter 3 dans mon top, parce que justement, moi, celui qui m'a marqué, c'est le premier et le 5 qui est une espèce d'aboutissement complètement ouf de technicité, de tout. Et ouais, bon, comme d'hab, hein, il a pas connu le 5 et même le 3 peut-être un succès à la hauteur de ses qualités. Pour mon top 2, je vais vous parler de MSR, le jeu de voiture. Alors MSR, j'ai galéré, ça veut dire quoi déjà? C'est Metropolis Street Racer, et donc c'est un titre qui ne ment pas. On est un jeu de voiture qui va se passer dans des villes, et c'était vraiment le gros délire. Voilà, on va visiter les grandes capitales, les grandes villes de par le monde, et de mémoire, on est quand même sur un jeu où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de voitures. Un gameplay assez précis, très arcade, mais assez précis, parce que justement, plus tu conduisais de façon stylée, plus tu gagnais une monnaie. Et si tu, par exemple, tu frottais les rails, si tu conduisais mal et que tu doublais en cognant ton adversaire, tu perdais cette monnaie qui s'appelait les kudos.
Évidemment, les kudos. c'était bizarre création, je crois, qu'il avait développé.
Exactement.
Qui a ça donné dans la franchise Project Gotham.
PGR.
Racing,
ouais, c'est ça.
Sur la Xbox.
Bizarre, c'était pas n'importe qui, hein. C'est les gens de Formula One, Formula One 97 après, donc toute la grande saga des Formula One. Ils ont fait même Blur. Rappelle-toi, Mario Kart réaliste avec des vraies voitures, mais t'as quand même des espèces de missiles.
Qui avaient laissé des gens circonspects.
Il était sorti un petit peu en même temps que Split Second, qui était vraiment exceptionnel. Et donc, c'était un petit peu ce duel des jeux de voiture rigolage. MSR, top 2, parce que moi, j'en ai un super souvenir.
C'est mérité.
Ton top 1.
On reste dans la franchise Virtua, donc développé in-house avec Virtua Tennis. Alors, j'aime bien les jeux de tennis. J'ai poncé pas mal d'heures à mon Mario Tennis 64.
C'est vrai.
Et Virtua Tennis, c'était vraiment, là encore, le turfu. Enfin, des animations de
incroyable.
Des persos, des joueurs modélisés d'après leur modèle réel, qui étaient incroyables aussi. Et c'est là aussi où j'ai vraiment compris le côté simulation. C'est-à-dire, j'ai joué contre un mec à la fac qui était fort. Il m'a mis une tannée, je n'ai rien pu faire. Donc vraiment, voilà, c'était peut-être... Alors, certains vont parler de Final Match Tennis, Top Spin et tout, mais je pense qu'il est dans le panthéon des jeux de tennis. Quoi. Alors, peut-être plus le 2, alors je suis pas un expert, mais...
Il y avait un petit truc avec la simulation. Bon, alors, Dreamcast, c'était aussi l'arcade, hein, c'était Sega. Mais il y avait ce Ferrari 355 Challenge qui est sorti sur d'autres consoles, hein, mais on n'a pas pu le mettre dans le top. Mais il y avait quand même une petite certains jeux voilà, qui étaient très, très simu, très, très précis.
C'est marrant, parce que tu avais d'un côté genre les Virtua Strikers, par exemple, les jeux de foot qui étaient 100% arcade, et après le Virtua Tennis qui était un peu plus simu. Enfin, ils jouaient vraiment sur tous les tableaux, quoi.
Ouais. Pour ma part, le top 1, c'est... Alors attention, je triche pas. C'est Capcom versus SNK qui est sorti sur PlayStation 1, mais dans une version pro. Donc il y a écrit Capcom versus SNK Pro. Alors c'est Ken qui nous a déterré cette jaquette PS1. Moi, j'étais persuadé...
Aucun souvenir qui était sorti sur PlayStation.
Mais c'est une version pro. Donc le Capcom versus SNK, premier du nom... Il exclut sur Dreamcast, jeu qu'on a poncé tous les deux. On avait, à l'époque, rappelez-vous, non, vous vous rappelez pas, vous étiez pas là, on avait une Dreamcast pour deux.
On l'avait acheté à deux.
On l'avait acheté à deux.
On était des galériens, on n'avait pas cette thune.
Et donc,
est-ce que j'avoue que tu me l'as racheté à coup de tickets restaurant
et de mangas,
je t'ai
pas filé des mangas aussi. Ouais, c'est possible. Et c'était la S ou pas?
Ah, écoute, on vient de loin, ça part de là.
Et ce Capcom vs SNK, vraiment, on l'a poncé, on l'a... Alors, peut-être mon jeu de basson préféré, c'est Racer Strike, mais il est au même niveau, c'est Capcom vs SNK, il est génial.
C'était la révolution, quoi. Ouais. Enfin, les deux, enfin, c'est comme Mario Sonic, quoi. C'est les deux écoles rivales qui se réunissent dans un jeu. C'était la folie.
Et malgré le fait qu'il y ait eu trop de suites, donc Capcom vs SNK 2 et 3, ben, ça reste le premier, mon préféré, de loin. Voilà. Donc, c'est mon top 1, et je suis content qu'il y ait une version pro sur PlayStation. J'ai pu le mettre parce que ce top était d'une galère. Essayez de le faire chez vous, ce top 3 des jeux Dreamcast exclusifs.
J'ai essayé de faire la liste de tous les jeux exclusifs only. Il y en a pas des masses, et vous allez voir que c'est pas évident.
On vous la partagera.
Il y avait quand même les jeux de Frédéric Reynal, hein, Toy Commander.
On n'a pas, alors, Gartek est pas sorti.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est des jeux qu'on n'a pas forcément fait non plus.
Mais Commander, qui a super bonne réputation et qui avait, voilà, sous ses atours de simulation de jouets de petits bonhommes verts à la Toy Story, qui était plutôt pas mal à ce qui paraît.
Ouais.
On n'a jamais testé, donc on vous en parle pas, ce qui nous a pas empêché de vous parler, voilà, de Blue Stinger et Sega Gaga.
Mais si, j'ai joué.
T'as joué, toi?
Dans mes rêves.
Ah ouais. Voilà pour cette interlude de top 3, hein. N'hésitez pas à nous balancer des idées, on vous voit. On a pas mal d'idées cette semaine, hein, top 3 qui ont été faites. Et votre top 3 des jeux Dreamcast, vous allez voir, c'est la galère. On va passer à la seconde chronique, à la seconde partie de l'émission, et je vais vous parler de Sea of Stars, un jeu, voilà, que j'attendais beaucoup, un jeu qui est développé par Sabotage, un studio qui est québécois, hein, qui a développé donc Sea of Stars, dont je vais vous parler, et The Messenger en 2018. Un jeu que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Hein. C'est un euphémisme. Ouais. Alors, aimant pas mal le premier jeu, j'avais des grandes attentes pour Sea of Stars, et en l'occurrence, j'avais surtout deux attentes qui étaient très importantes pour moi. La première, c'était que j'attendais que le jeu soit vraiment fun. Fun, au premier sens du terme, qu'il soit amusant, qu'il soit drôle. Et j'attendais que Sea of Stars soit plus qu'un jeu nostalgique, qu'il aille un peu plus loin que ça. Et ça tombe bien parce que ces deux critères, c'était deux critères qui auraient pu résumer The Messenger. Ce premier point, donc le jeu fun, le jeu drôle, The Messenger, l'été, on a fait un top 3 des jeux les plus marrants. C'était mon top 1. Je vais pas dire que je le trouvais hilarant, mais vraiment, moi, c'était l'éclate totale, comme on disait dans les années 90. C'était un jeu qui était ultra ludique, donc fun, oui, il l'était sans conteste. Second point, The Messenger, c'était un jeu de plateforme 8 bits, mais pas que. C'était pas un jeu doudou, ni un jeu nostalgique, c'était un jeu témoin d'une époque du jeu vidéo. Alors c'était bien évidemment un jeu hommage à Ninja Gaiden 2, mais pas uniquement. Alors pourquoi je dis qu'il n'était pas un titre nostalgique? Alors pas que nostalgique, hein, il était un petit peu forcément, parce qu'à mon sens, le but du jeu n'était pas d'émouvoir par le souvenir, mais de synthétiser un âge de l'industrie du jeu vidéo. À lui tout seul, il illustrait toute une époque, et même un passage entre deux époques, l'époque 8 bits NES à la 16 bits Super NES. Il incarnait en fait cette transition avec tout ce que ça représente de changements techniques et graphiques, mais aussi de modifications conceptuelles et de gameplay. Alors j'en dis pas plus, et il y a un twist, et j'en ai parlé 50 fois, il y a un twist dans The Messenger, c'est du pur génie. J'ai une question, Nico, du coup, pourquoi t'as pas fait le jeu?
Alors je l'ai commencé.
Un petit peu.
Alors, je sais pas, il était pas arrivé dans le Game Pass.
Il était Game Pass.
Mais je crois que j'ai joué une heure ou deux. Je trouvais ça très cool.
Mais t'es pas arrivé au twist.
Mais voilà, ouais, tu sais, moi, il me faut...
Il faut la First Hour expérience de qualité. Mais franchement, dès les premières secondes, moi, je le trouve à mourir de...
L'écriture, c'est très rigolo, des bonnes vannes et tout.
Bah, déjà, en tant que français, il est écrit par un studio québécois, donc il l'écrit en français, ce qui vraiment donne un niveau de blague, un niveau de langage et de langue qui est vraiment différent et pour ceux qui parlent français, est exceptionnel. Si vous avez lu lu le manga, par exemple, Radiant de Tony Valent. On n'a pas l'habitude, nous, de lire des mangas français. On a tous ces mangas qui sont extrêmement bien 3D, mais sont souvent adaptés avec des blagues japonaises. Là, Radiant de Tony Valent, qui est un mangaka français, bah, l'humour, il est ouf, parce qu'il écrit justement en français.
Bah, il nous parle plus, évidemment, hein, culturellement parlant.
Alors, on va passer à Sea of Stars, du coup, et on va voir s'il répond à ces deux critères. Est-ce qu'il est un jeu amusant? Alors, oui, de ouf. Il est très, très amusant. Et être un jeu amusant, c'est tout bête à dire, et ça semble pas être un argument solide ou même un compliment sérieux, mais pour moi, c'est vraiment le cas. Le jeu est fun, je me suis éclaté, et j'ai adoré chaque moment de l'aventure parce qu'il m'a, il m'a amusé, en fait, il m'a diverti. Et c'est marrant parce qu'on peut regarder autour de nous, même se réfléchir à soi-même, on va pas tous chercher la même chose dans un jeu vidéo. C'est pareil pour le cinéma, la littérature ou ce que vous voulez. Si on prend par exemple les membres de l'équipe de Third, on a Damien qui va chercher des jeux avec un scénario uniquement, il y a Ken qui est plus versé dans le gameplay, il y a Ludo qui est un petit peu plus équilibré dans ses attentes. Nico, toi c'est quoi que tu vas chercher dans un jeu vidéo? Est-ce que c'est uniquement le scénario, uniquement le gameplay, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire dans le sens où on va pas chercher tous la même chose?
Ouais, alors je me rapprocherai un peu de l'école d'Amiens où j'ai besoin d'avoir, tu vois, souvent une histoire, d'avoir une ambiance, quelque chose, ouais, qui me tienne et qui me pousse à avancer. Mmh. Alors j'ai l'habitude de le dire de manière un peu pour une de la blague, mais les jeux de l'époque, machin, jouer juste pour jouer, ça me suffit plus quelque part, ouais. C'est quand même un petit peu bizarre.
Je comprends.
Après, il faut quand même du fun dans le sens où tu ressens du plaisir face à l'expérience. Mmh. Voilà.
Alors que moi, j'aime bien, moi, les jeux de l'époque. Alors, Sea of Stars, c'est pour moi le jeu fun par excellence parce qu'il propose de l'interaction partout. C'est vraiment du jeu vidéo. On est sollicité à chaque seconde, tout le temps, que ça soit pendant les combats qui sont tour par tour vont vous demander de l'interaction, pendant les attaques, pendant les défenses. Il va falloir adopter un certain timing pour certaines attaques. Même le fait de cuisiner, donc comme dans beaucoup de JRPG, tu vas cuisiner. Là, ben, tu vois, on va nous demander d'appuyer longuement pour faire un plat, mais il est fun visuellement. Tu vas voir les différentes étapes du plat.
J'adore les bruitages quand ils font la cuisine.
Ah, mais putain. Le sound design, en règle générale, est vraiment génial. Une idée de génie, qui est pourtant toute bête dans Sea of Stars, c'est un bouton d'exploration. Le fait que pour sauter, pour grimper, pour interagir avec tout ce qui est dans le niveau, on va te demander d'appuyer sur X. Alors, c'est pas un vrai bouton d'interaction comme tu peux avoir, je sais pas, dans les jeux type Quantic Dream. Mm. C'est juste que dans la plupart des JRPG, quand tu te balades dans les niveaux, t'as absolument rien à faire. Tu te balades, tu peux même pas sauter. Là, en fait, t'as un vrai bouton et c'est vraiment tout bête, mais t'es toujours dans l'action. C'est toujours interactif. Ces donjons, parlons-en. Pour moi, c'est le haut du panier, pour pas dire c'est quasiment les meilleurs donjons du JRPG, je pèse mes mots, c'est vraiment du génie. Ils sont tout le temps bien, tout le temps fun, il y a un level design extrêmement fouillé, extrêmement recherché, ça, il y a un truc aussi qui est génial, il y a une vraie inspiration Zelda de l'époque, hein. Link to the Past, ça arrive par trois fois dans le jeu où t'as un gros donjon massif avec une vraie idée de game design dans lequel tu vas à la fin découvrir un gros trésor, vraiment un trésor à la fin, et ce trésor va contenir un objet clé. Alors ça arrive trois fois, donc j'en spoil un, c'est le grappin, vous l'avez vu dans les trailers. Bah, ce grappin va te permettre de revisiter ce donjon et va te permettre de visiter l'ensemble du jeu différemment, et voilà, le donjon il est articulé autour de cet objet clé comme un boomerang dans Zelda, et ça c'est trop trop bien quoi, enfin c'est mortel. Et en règle générale, je l'ai dit, il y a toujours une idée d'exploration, un puzzle, un truc à déplacer, un petit aller-retour à faire, même dans les fields, ce qu'on appelle en fait ces phases transitoires qu'il y a dans les JRPG qui sont souvent extrêmement plates, qui ne proposent que des combats. Il y a des combats dans Sea of Stars, mais là, il y a toujours quelque chose dans l'exploration. Tu as commencé le jeu, tu l'as fait, t'es d'accord avec moi sur cet explo qui est sympa?
Ouais, j'ai joué à peu près 5 heures, donc comme tu dis, c'est vraiment, je trouve, ce qui a guidé le développement, j'imagine, c'est mettre le joueur au cœur de l'expérience. C'est vrai que les RPG, tu peux avoir une certaine passivité du joueur, hein, dans le sens où tu te déplaces, les combats autour par tour, ça peut être un peu lent, quoi.
Oui.
Là, autant dans le combat, dans l'exploration, on te demande toujours d'interagir, toujours de réagir, et t'as cette sensation, enfin, explorer un village, pour moi, c'est un peu une tannée dans un RPG, parce que c'est juste visiter toutes les maisons, parler à tout le monde, plus par principe que par intérêt. Et là, t'as tout le temps un truc à grimper, une porte à cacher, un trésor à découvrir. Enfin,
t'as une petite réflexion. T'as une ville maritime, un port qui, en fait, est un petit peu entrelacé. Tu vas devoir réfléchir en te disant, mais je vois un trésor là. Comment je vais faire pour y arriver? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est ludique, c'est fun, ouais. C'est intéressant. C'est quand même les mecs qui ont fait The Messenger, donc il y a vraiment un attrait, un savoir-faire sur l'interaction, le fun, le dynamisme. Ils ont réussi à mettre ça dans Sea of Stars. Et en parlant de fun, un mot rapidement sur la démo qui a été proposée avant la sortie du jeu, démo qui mettait en scène, en l'occurrence, ce village maritime. Et cette démo, elle est super ludique parce que au-delà d'être fun, il y avait aussi un secret à la fin, un secret qui va vous permettre de découvrir quelque chose pendant le jeu.
C'est cool.
Et c'est ça, quelque chose qui est fun, qui est interactif, c'est le jeu avec le joueur tout le temps, que ça soit dans le jeu ou hors du jeu, proposer des idées de façon ininterrompue. C'est ça qui a guidé, je pense, le développement et moi, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Le second point, est-ce que Sea of Stars est un jeu nostalgique? J'ai avalé, c'est pour ça que j'ai fait un petit suspense.
Ça tombait bien.
Alors, est-ce que c'est un jeu nostalgique? Oui, mais pas seulement. Comme The Messenger, je pense qu'il est là pour encapsuler une époque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, faire un jeu qui incarne une époque, mais pas en faisant plus qu'aligner une somme de jeux, plus qu'aligner une somme de références. Encapsuler une époque, c'est aussi capturer un état d'esprit, une ambiance. Et ici, avec Sea of Stars, c'est capturer une forme d'insouciance. Ici, le jeu va illustrer le début de quelque chose d'important pour le jeu vidéo. C'est le début d'un culte pour un genre, le début du culte pour le JRPG. Alors, la nuance avec la nostalgie est fine, mais la nostalgie n'est pas un témoin, c'est un écho. Et un jeu nostalgique va véhiculer une émotion, alors que le jeu témoin va transmettre une idée. Alors, je sais pas si je suis clair. Nico, est-ce que tu crois que ça
moi,
va?
Je vois ce que tu veux dire.
Alors, Sea of Stars, dans son ensemble, on l'a dit, tu l'as évoqué même avec les sons, il est très agréable. Le jeu, il possède un ton léger, il y a une bonne ambiance, il est très satisfaisant dans ce qu'il nous montre et dans ce qu'il nous fait entendre. Mais je pense pas du tout que c'est un désir de faire un jeu cosy, wholesome, très à la mode actuellement, justement parce que l'insouciance que j'évoquais, c'est le reflet d'une époque. C'est la folie des années 80-90 au Japon, mais c'est aussi l'état d'esprit des joueurs de l'époque. Nous, qui étions enfants, ados, on était complètement dans cet état d'esprit de joie, de découverte, un petit peu d'insouciance.
Notre seul problème, c'était qu'est-ce qu'on va avoir à bouffer ou goûter, quoi.
Donc,
c'était une belle époque.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a, c'est vrai, ce côté un petit peu wholesome, sympa, et t'avais des craintes à ce sujet.
C'est vrai que oui, sur les 5 premières heures, moi, j'avais quelques réserves sur le jeu, dans le sens où je trouve le début un peu lent à démarrer, et on est très dans le côté, comme, j'identifie ça, le jeu un peu wholesome, ou rien n'est grave, ouais. Ou allez, tous, on va y arriver, tous ensemble, let's go, enfin.
Et donc voilà, moi, j'associe plus à notre insouciance, à cette époque. Alors, quand je parle de la fin des années 80-90 au Japon, c'est tout ce qui est, par exemple, illustré dans Yakuza 0, cette bulle économique où l'argent pleuvait à flot. Dans Yakuza, tu mets des pains aux méchants et l'argent tombe, vraiment. C'est aussi cette époque qui est illustrée dans Sea of Stars, c'est cette insouciance économique, cette insouciance du Japon, cette insouciance de nous, joueurs, qui étions ados et enfants.
Voilà, le contraire de notre époque actuelle, quoi.
Bah, figure-toi que ça a un petit rapport aussi, c'est que quand vos JRPG aujourd'hui sont peut-être un peu plus tristounes, c'est peut-être parce qu'ils ont été développés dans un milieu un peu plus tristoun. Alors, au vu de sa typologie, Sea of Stars pourrait aussi être taxé de wholesome, mais aussi de light RPG. Et en effet, on pourrait dire que le jeu, il en fait pas assez. Mais moi, j'aime pas trop cette désignation de light RPG parce que c'est un petit peu réducteur. Un jeu light, c'est quoi? C'est un jeu light par rapport à qui? Par rapport à quoi? Même si je dois l'avouer, moi, j'en aurais voulu plus. J'aurais aimé plus de héros. Alors, je vous dis pas combien il y en a, mais il y en a pas beaucoup. J'aurais aimé plus de capacités par personnage. Il y a que 3 capacités par personnage. Plus de magie. Il y en a pas de magie dans Sea of Stars. Alors, il y a tout un système où tu peux récupérer de la mana, et il y a aussi tout un système à la Chrono Trigger où tu as des coups combos, mais t'as pas réellement de magie, en fait. Plus d'invocations, t'en as un super méga coup par personnage, plus d'équipement. Alors, on est dans un système qui est très simple, comme FF16, qu'on a vraiment reproché un système de tu trouves une arme qui remplace la précédente parce qu'elle est plus forte, et ça va pas plus loin. Mais bon, faire un jeu simple, le contenu resserré a permis au studio de faire un jeu qui était maîtrisé, et de deux, cette simplicité, et je dis pas ça méchamment, va dans le sens d'un jeu qui va résumer une époque, d'un concentré de ce qui existait à l'époque. Il faut se souvenir que cette simplicité était courante dans les JRPG des années 90. Chrono Trigger, qui est sûrement la plus grande source d'inspiration du jeu, était un jeu très simple dans son aspect RPG. Les équipements, les pouvoirs, c'était clairement à la hauteur de Sea of Stars. Tout comme la longueur du jeu, courte, de Sea of Stars, qui va souvent avec cette désignation, sale désignation de light RPG. Pour rappel, Chrono Trigger, c'était un jeu de 20 heures. Shining Force, 20 heures. Secret of Mana, 20 heures. Secret of Evermore, 15 heures. Illusion of Time, 10 heures. Et Sea of Stars, la première fin, c'est entre 25 et 30 heures. Donc finalement, le light RPG court, je ne sais pas.
C'est bien, tu nous donnes des munitions pour un débat qu'on va avoir prochainement dans un autre podcast. Mais c'est vrai que oui, les gens ont toujours la mémoire un peu courte. Hein.
Et la liste de jeux que je viens d'évoquer n'est pas anodine, car en plus d'être des titres publiés à la même époque, ils sont courts et dotés d'une ambiance cool, légère et bon enfant. Alors je dis pas que ces jeux hein, que j'évoquais n'avaient pas un scénario intéressant, ou avec une fin épique et plus sombre. Mais ce que je dis, c'est qu'une grande partie des titres de cette époque, celle dont Sea of Stars se fait témoin, n'était pas un parangon de la dépression, du sérieux, de la prise de tête. Tous les jeux n'étaient pas comme Xenogears à philosopher sur la vie, ou Suikoden à traiter avec sérieux de la guerre. Car d'ailleurs, hein, il faut bien le noter, Xeno et Suikoden sont postérieurs à l'époque concernée, qu'on parle là en ce moment. Un autre truc, sur ce côté un petit peu sombre du jeu, on fait souvent la comparaison entre Chain Echoes et Sea of Stars. Alors je vais pas dire qu'ils ont rien à voir, mais hormis le pixel art, et là pour le coup ça n'a rien à voir, hein, l'un est sublime et l'autre est horrible, les deux jeux ne se rejoignent pas parce qu'ils ne portent pas le même héritage. L'héritage de Chain Echoes se trouve plus dans la fin des années 90, début 2000, et du coup son rendu 2D pixel, je trouve, s'avère un peu anachronique vis-à-vis de son propos. Bon, pour rappel, hein, le dev était solo, il avait pas trop le choix, on en a parlé dans une chronique, mais Chain Echoes, comme Xenogears, comme certains Final Fantasy, et la plupart des JRPG de la fin des années 90 sont des jeux longs, sombres, et qui abordent des sujets sérieux frontalement. Sea of Stars se trouve plus dans la veine des premiers Final Fantasy, Dragon Quest, Shining Force, Secret of Mana, Legion of Time, tout ce que j'ai énoncé. Et contrairement à The Messenger, qui illustrait en fait le passage entre deux générations de consoles et deux générations de jeux de plateforme, Sea of Stars, bah, celui, il se fait plus le témoin d'une réalité qu'on oublie. C'est un jeu d'une époque précise, celle des JRPG avec un scénario simple et bon enfant, alors qui part en vrille hein, à la fin avec sa conclusion, c'est la fin du monde et tout ce qui va bien, vous inquiétez pas, mais c'est un jeu de témoin des JRPG plus courts, qui vont droit au but, et surtout qui sont amusants, amusants dans tous les sens du terme. Alors on va parler musique maintenant. Ouais. Et comme souvent, hein, la direction de l'OST porte, et du sound design, bah, porte en eux un petit peu les notes d'intention des jeux. Je vous ai fait le coup avec Sonic Frontiers, je vous ai fait le coup avec Under the Waves, je pourrais vous refaire la manœuvre tout le temps en fait, parce que ça a du sens que la musique appuie le discours du jeu. Et je vous le donne en mille, hein, Sea of Stars, c'est le cas. Parce que au-delà des mélodies super efficaces du jeu, je vous invite à tendre l'oreille et à remarquer à quel point ces mélodies sont faussement guillerettes. Je vous invite à remarquer à quel point ces mélodies sont en réalité assez triste. Sea of Stars, en sous-texte, nous dévoile quand même un second visage beaucoup plus mélancolique. Le jeu n'est pas frontalement sombre, hein, mais comme sa musique, bah, le jeu, il est faussement joyeux. Et cette tristitude, le jeu va l'exprimer en premier lieu par sa bande-son, et un petit peu plus tard, dans son aventure, avec ses thématiques. Sea of Stars, c'est un jeu qui parle de l'échec, qui parle des gens qui essayent de changer leur réalité, qui essayent de changer leur monde, mais qui n'y parviennent pas. Et le jeu nous pose aussi une question intéressante avec le statut de l'élu. C'est quoi être un élu? Ça représente quoi? Dans le même ordre d'idée, le jeu se questionne sur la place du héros. C'est un petit peu parallèle. Qui est le vrai héros dans Sea of Stars? Et est-ce que le vrai héros, c'est pas celui qui était dans l'échec? Et finalement, l'échec, c'est quoi? Est-ce que c'est pas tomber pour faire réussir les autres? Toutes ces questions qui sont pas, qui sont philosophiques, mais qui sont pas frontalement sombres, sont traitées dans Sea of Stars en sous-texte. Après, le hasard faisant bien les choses, les JRPG que j'ai cités tout à l'heure, comme Shining Force, Secret of Mana, Illusion of Time, Secret of Evermore, tous portent un premier vernis très heureux, mais tous nous cachent en réalité un discours un petit peu plus triste qu'il n'y paraît. Évidemment, vous pouvez me mettre des contre-exemples dans la tête, même dans la fin des années 90.
Il y en a toujours.
Grandia, c'était très fun, mais finalement, Wild Arms, c'était très... Évidemment, il y a des contre-exemples, mais c'est plutôt une tendance, et plutôt, dans ce que je dis de Sea of Stars, qu'il était témoin de toute une génération de JRPG. Alors en conclusion, je vais faire une conclusion très simple, toute simple, peut-être un petit peu comme le jeu, ou pas. Alors Sea of Stars, c'est du bonheur en fait, du bonheur pour les yeux, du bonheur pour les oreilles, mais au final ce jeu, je vous en ai pas vraiment parlé pendant cette chronique, mais j'ai essayé de vous parler du bonheur qu'il m'a procuré. Et il était très 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 élevé. J'ai surkiffé ce jeu Sea of Stars, donc
c'est ce qui compte.
C'est ce qui compte. Nico, tu l'as commencé, t'as fait 5-6 heures de jeu. Est-ce que tu veux qu'on passe quelques minutes à parler plus du jeu, ou ça suffit? Allez-y, faites-le.
Non, mais je trouve ça très très pertinent ce que t'as dit, et notamment sur ce découpage et cette philosophie entre deux types de JRPG quelque part. Et C'est que nous, on a eu peut-être cette chance de les avoir découverts à l'âge qu'il fallait à chaque fois. Tu vois, on a grandi aussi à un moment où le RPG peut-être choper des thématiques qui nous parleraient plus avec l'âge, quoi.
Et on a basculé nous aussi dans ces JRPG plus sérieux, tu vois. Et puis dans cette adolescence où nous, on était là, ouais, t'as vu comme
ah,
c'est
t'as
dit.
Vu, c'est hein, vrai. Et, son, hein.
Et aujourd'hui, on a des fois cette nostalgie et c'est intéressant. Et ça, on va en parler dans un autre podcast, UX sur FF16. Mais on a cette nostalgie de dire ouais, il y a Final Fantasy qui a changé machin, mais finalement, les FF qu'on a aimés, c'est quand nous, on était plus jeunes. Et en fait, les seuls qui ont changé dans cette histoire, c'est nous. C'est pas finalement les FF. Est-ce que nous, à 12 ou 13 ans, FF16, on serait pas pignolé dessus en disant « Regardez comme c'est deep, regardez comme c'est intéressant ». Ceux qui achètent, les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est nous qui avons vieilli et évolué. Et finalement, pas tant les jeux que ça. Et c'est pour ça que je dis que Sea of Stars, il est témoin de cette réalité qu'on va peut-être oublier. On va peut-être faire un grand amalgame de ces JRPG joyeux, de ces JRPG fin 90 plus deep, plus sombre, en premier lieu en tout cas.
Ouais, mais en tout cas j'ai l'impression que Sea of Stars, il a quand même réussi à toucher sa cible, hein, parce qu'il a quand même eu des très bonnes critiques, il a su plaire. Et c'est vrai qu'il y a ce versant, tu l'as dit, à chaque fois convoqué un certain nostalgie. Enfin, il est trop beau, sa 2D est magnifique, mais il est beau comme on s'imagine, enfin comme on garde les souvenirs de Chrono Trigger de l'époque, quoi.
Il est techniquement comme on se souvient du passé, mais pas comme le passé l'était réellement. Ouais. Et alors moi, graphiquement, je trouve que c'est le plus beau jeu dans son genre, plus que Eastward. Vraiment, c'est le truc le plus magnifique que j'ai jamais vu.
Super. Bon.
Et il a ce pied dans le passé, dans l'actuel, avec par exemple des lumières dynamiques. Jamais de la vie, Sea of Stars, ça tourne sur Mega Drive et Super NES, mais jamais de la vie.
T'as une gestion jour nuit, même qui se fait en temps réel parfois.
Ouais. Hein, c'est intéressant parce que ça c'est vrai aussi pour la musique, c'est-à-dire que le niveau de production et le nombre de couches de musique, ça c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister sur Super NES et Mega Drive. Là c'est le cas, on a des sonorités qui nous rappellent l'époque, mais on a techniquement, comme les graphismes, quelque chose qui est très contemporain. Et ce passage jour-nuit, parce qu'on a deux héros, un qui représente la lune et l'autre le soleil, va aussi en fait transparaître dans la musique, où tu vas avoir une certaine forme de musique adaptative. En grande partie, toutes les musiques en fait sont dédoublées. T'as une version jour et une version nuit. Et vers la fin du jeu, c'est pas un gros spoil, mais vers la fin du jeu, vous allez pouvoir être maître justement du temps qui passe. Donc, vous allez pouvoir passer jour et nuit, et vous allez avoir en fait cette bande son qui va s'adapter. Et on a ce grand écart, cet epic split entre nos souvenirs et un aspect de production contemporain.
Ouais, et cette modernité, on la voit, on en parle souvent dans la qualité de vie où ton perso va vite. Tu vois, il a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour courir. Tout se fait de manière fonctionnelle, ouais. T'as pas de latence, il est super agréable à prendre en main, quoi.
Et vous allez voir, en tout cas, vous allez avoir plein de surprises. Alors, j'ai parlé de tristesse et mélancolie, j'espère que vous allez la sentir et tendez l'oreille sur les mélodies, mais vous allez aussi avoir un scénario qui va basculer dans un grand classicisme du JRPG, des twists, franchement, moi, c'est un jeu que j'attends depuis le Kickstarter, comme Sabotage, c'est vraiment un studio que j'affectionne tout particulièrement, et à quelques semaines du lancement de Sea of Stars, j'ai eu la petite crainte. C'était de me dire, t'en as trop fait, ou il y a trop d'attentes sur Sea of Stars. Et là, je peux vous dire que je faisais partie des gens qui l'attendaient beaucoup, et il m'a pas déçu. Donc, à mon sens, c'est quand même, le contrat est largement rempli.
Et juste peut-être qu'il peut intéresser les gens, tu l'as fini en combien de temps?
25-30 heures, alors c'est pas première fin. Sachez qu'il y a vraiment un vrai endgame aussi, avec de l'exploration, des choses qui vont pouvoir vous rappeler cette belle époque de « Ah, j'ai fini mon jeu, j'ai des choses à faire ». Et là, encore mieux que l'époque, c'est que vous allez pouvoir débloquer des trucs par la suite, et même une potentielle vraie fin, un petit peu comme cette démo en fait qui nous avait donné, qui cachait un secret qui peut être exploité pendant le jeu. Vous pouvez me DM, je vous dis, si jamais vous avez pas fait la démo, je vais vous dire, allez là, je te le dirai tout à l'heure.
Ouais, je suis curieux,
Donc voilà pour Sea of Stars, voilà pour les consoles mobiles et le marché des portables. Émission avec, on espère que vous avez trouvé sympa, l'occasion de vous remercier pour votre fidélité, de vous remercier pour ces commentaires, pour ces notes que vous mettez sur les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à mettre toujours plus de notes et 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. L'occasion de faire la bise à toute l'équipe, à Ken, à Damien et à Ludo, qui est avec nous juste à côté là, et donc on va en profiter pour enregistrer un podcast, Sir Strike EX sur Final Fantasy XVI, que vous retrouverez je pense le mois prochain, et un Sir de Strike tout court. Vous rappelez, avec chacun sa chronique, tout ça, pareil, ça sera pour le mois d'octobre. Est-ce que je te demande ce qui arrive là? Non, pas du tout.
Pas du tout.
Parce que si vous aimez nous écouter, vous allez aimer nous lire, j'espère en tout cas.
C'est vrai. Non, parce que Sœur d'édition, c'est donc avant tout une maison d'édition dédiée aux jeux vidéo et à la pop culture en général. On a plus de 150 livres, 150 sujets, donc il y a forcément des trucs qui vont vous intéresser.
Beaucoup de JRPG.
Beaucoup de JRPG, carrément. Comme d'hab, derrière nous, des indices hein, sur des sujets qui pourraient être...
connecté
à ce qu'on a abordé aujourd'hui, donc du Chrono Trigger et
Chrono Cross,
voilà, et la Game Boy, voilà. Et donc on est dispo en librairie, on est dispo sur notre site internet, on est un cadeau de Noël idéal, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le genre idéal mais pour les
cadeaux. C'est bientôt Noël, voilà. Pensez, faites vos réserves de cadeaux de Noël en amont, n'hésitez pas. Et Nico, c'est la question, qu'est-ce qui se passe dans Red Alert la semaine prochaine?
Eh ben écoute, je crois que Cyberpunk ça sera pas encore ça sera trop tôt.
Ouais, mais on sait pas.
On sait pas. Eh ben écoute, on va voir. Je me laisse la surprise et je vous laisse la surprise.
Mais un 10 Cyberpunk, le DLC Phantom Liberty te branche de ouf.
Carrément.
Et pour ma part, je crois qu'on va continuer dans le JRPG. Je vais vous parler de Baten Kaitos parce que c'est l'actu. Je suis désolé. Un remaster Switch est sorti. Est-ce qu'on est sur du top 10 all time? Je crois, peut-être.
Ouais,
j'ai éclaté les oreilles de nos auditeurs et de Ken qui montent. Merci à tous pour votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.